Tout de suite, le journal avec vous, Anne Lorchouin, bonjour.
Bonjour à tous. Rivalité intragouvernementale, Europe, loi travail, coiffeur de l'Elysée peut-être, ce sont les sujets que les journalistes qui intervieweront François Hollande à la mi-journée ont prévu d'aborder pour la traditionnelle interview du 14 juillet. 45 minutes de questions pour un rendez-vous de plus en plus boudé par les Français. L'analyse à ce sujet de l'historien Jean Garrigue, spécialiste d'histoire politique, maître de conférence à l'Université d'Orléans.
Fondamentalement, je pense que les Français n'accordent pas une très grande importance à ces interviews du 14 juillet, ne serait-ce parce qu'une grande partie d'entre eux sont en vacances, mais aussi parce qu'ils voient bien le caractère un peu factice, superficiel de ces interviews. Et donc, il est très vraisemblable que cette interview de François Hollande ne donnera lieu à aucun revirement de l'opinion, tant le désaveu est grand de la part des Français. En revanche, c'est devenu une sorte de rituel républicain avec le défilé lui-même du 14 juillet, que de donner lieu à cette interview qui effectivement est véritablement la chose du président. Il l'oriente dans la direction qu'il souhaite et donc ce qui est certain, c'est que ce sera une contribution à la future campagne électorale, ne serait-ce que parce que Emmanuel Macron s'est à nouveau positionné comme un candidat possible, sinon probable, et donc de manière absolument nécessaire, François Hollande doit intervenir, marquer son territoire, et puis surtout continuer à essayer de donner un bilan positif du quinquennat.
Jean Garrigue, interrogé par Antoine Denecher. Au Royaume-Uni, Theresa May a finalisé hier la composition de son gouvernement en nommant deux eurosceptiques convaincus à deux postes clés. D'une part, l'ancien secrétaire d'État aux affaires européennes, David Davis, qui prend en charge un ministère entièrement dédié au Brexit. Et d'autre part, Boris Johnson, ancien maire de Londres, au poste de ministre des Affaires étrangères. Un choix qui a surpris la plupart des observateurs. Boris Johnson étant justement connu pour son manque de diplomatie. Le même qui avait prédit l'arrivée massive de migrants sur les côtes anglaises dans le cas où le Royaume-Uni resterait dans l'Europe. Pour l'instant, ces mêmes migrants sont toujours bloqués dans le nord de la France, notamment dans le camp de Lignières, à Grande-Synthe, qu'une délégation de députés européens est venue visiter hier. 800 personnes vivent actuellement dans ce camp, contre 2800 en décembre dernier, essentiellement originaires du Kurdistan irakien et espérant rallier le Royaume-Uni. L'occasion pour l'ONG Médecins sans frontières de dénoncer une interdiction d'accès faite à plusieurs personnes ces dernières semaines. Catherine Dutu.
Les hommes seuls, interdits d'entrer dans le camp de Grande-Synthe. Damien Carême, le maire écologiste de la commune, s'en explique. Il retire des abris au fur et à mesure que les migrants partent. 2800 personnes en décembre dernier, 800 aujourd'hui. Le camp est donc toujours complet pour Damien Carême.
J'ai toujours dit que petit à petit, on réduirait ce camp pour que ça reste supportable pour la commune, pour arriver un jour à sa fermeture, parce que des camps de réfugiés en France, c'est pas la solution. Je pense qu'on peut imaginer d'autres choses. Depuis 3 semaines, ils sont à 800. Donc j'ai laissé une opportunité d'une ouverture possible en disant, on va quand même accueillir les femmes et les enfants, les familles et les hommes qui sont en fragilité. Mais à un moment, il faut fixer des limites, parce que ou je le laisse ouvert et on risque de passer à 4000, ou je dis, c'est 800, le camp est complet, comme quand vous allez à l'hôtel et que l'hôtel est complet.
Mais pour Médecins sans frontières, la vocation d'un camp humanitaire est d'accueillir les réfugiés. Franck Esnay, chef de mission MSF, compte 34 migrants refoulés à Grande-Synthe depuis le 22 juin dernier.
Un refoulé aujourd'hui sur le camp de Grande-Synthe, c'est prendre le risque de créer de nouveaux campements sauvages ailleurs, alors que la place existe dans le camp de Grande-Synthe. 34 personnes refoulées, donc c'est seulement les cas dont on a été témoin. Il y en a sûrement davantage. Il y avait un handicapé, 2 mineurs et une femme enceinte renvoyés sur Calais. Enfin, c'est insupportable. On ne peut pas renvoyer des gens sur Calais alors que c'est la jungle à Calais.
MSF qui a profité de la présence hier d'eurodéputés à Grande-Synthe pour demander des voies légales d'immigration. Seul moyen, selon l'ONG, d'échapper aux passeurs et à des traversées périlleuses en Méditerranée. Notamment.
Ne pas profiter ouvertement de la décision de la Cour permanente d'arbitrage de l'AE sur la mer de Chine, c'est le conseil donné discrètement par Washington aux Philippines et à d'autres pays asiatiques qui demandent à la Chine d'arrêter d'empiéter sur leurs eaux territoriales. Pékin a d'ores et déjà jugé cette décision de la Cour de l'AE nulle et non avenue. Il faut dire que ce couloir de mer de Chine méridionale est hautement stratégique pour les exportations chinoises. Et pourtant, les échanges commerciaux entre la Chine et le reste du monde ont sévèrement chuté au mois de juin de presque 5%, sans compter que les conséquences du Brexit pourraient assombrir un peu plus le moral des industriels chinois. L'Europe est en effet la première destination des exportations chinoises. Jean-Marc Chardon.
Une glissade qui n'en finit pas et qui commence à inquiéter. La Chine a vu ses exportations fondre de près de 5% et rien ne semble arrêter la baisse après la succession de mauvais chiffres depuis ces derniers mois. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé de ranimer les ventes en dépréciant autant que possible la devise nationale, le yuan. Les autorités chinoises qui ont eu recours à plusieurs salves d'assouplissement monétaire, mais voilà, la demande internationale est morose. Et Pékin a beau tenter de rééquilibrer ses efforts en dopant la consommation intérieure, ça ne suffit pas. Difficile de toute façon d'accélérer quand l'industrie est elle-même jugée en état de surproduction et au moment où les autorités s'interrogent. Relancer la croissance, oui, bien sûr, mais à quel prix? En faisant de grands travaux, mais avec le risque de s'endetter un peu plus, est-ce bien raisonnable quand le niveau de la dette a déjà dépassé les 250%? La Chine craint aussi que le Brexit ne lui complique la tâche et veut redoubler d'efforts pour inonder l'Europe de ses aciers. On utilisera tous les moyens pour nous protéger, a prévenu le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Reste à savoir lesquels, le calendrier qui sera retenu et quelle coordination avec le Royaume-Uni.
Jean-Marc Chardon. À Djouba, au Soudan du Sud, les habitants sont toujours sous le choc après les violents affrontements de la semaine dernière. Il y aurait des centaines de morts et 42 000 déplacés selon l'ONU. La trêve décrétée est a priori respectée par les partisans du président Salva Kiir et ceux du vice-président Riek Machar. 5 ans après l'indépendance du Sud-Soudan et 1 an après un accord de paix qui a mis fin à la guerre civile, les deux camps semblent encore aujourd'hui irréconciliables. Thomas Chenet.
D'un côté, il y a les partisans de Salva Kiir, président du Soudan du Sud depuis l'indépendance du pays en 2011, et de l'autre, les combattants restés fidèles à Riek Machar, vice-président destitué en 2013 et qui est revenu aux affaires en février dernier. Les deux hommes appartiennent à deux ethnies différentes, les Dinka pour Salva Kiir et les Nuer pour Riek Machar. Mais le conflit entre les deux camps dépasse les clivages ethniques selon Marc Lavergne. Il est chercheur au CNRS et spécialiste du pays.
L'adhésion n'est pas strictement ethnique, elle est en fonction de ce qu'ils peuvent donner à leurs troupes. Dans la mesure où toutes les ressources sont accaparées par une centaine de personnes, le seul moyen de survivre, c'est de prendre les armes. Il y a d'abord le pétrole, c'est une ressource considérable, et puis il y a d'autres ressources qui sont engendrées par l'aide humanitaire, par l'aide internationale. Donc cet argent, c'est aussi un but de guerre, et puis il y a les trafics de toutes sortes, trafic de drogue, trafic d'armes, etc., puisque le Sud-Soudan est devenu une plaque tournante depuis son indépendance de ces trafics grâce à cet état non-droit pour lequel se déchirent les deux factions rivales.
Ni Salva Kiir ni Riek Machar n'ont voulu reconnaître leurs responsabilités après les affrontements qui ont eu lieu à Djouba. Un porte-parole de Riek Machar a indiqué hier que le vice-président avait quitté la capitale sud-soudanaise pour éviter, dit-il, de nouvelles violences.
Et Thomas Chonner, le temps de ce 14 juillet, c'est par l'ouest que vont venir les éclaircies, mais de façon très progressive sur la majeure partie du pays. Encore des nuages et quelques averses et surtout des températures encore relativement fraîches de 8 à 17 degrés ce matin, de 17 à 29 cet après-midi. Ces journaux ont été préparés avec Julien Loquet et François-Charles Domergue. Prochain journal à 12h30 avec Antoine Mercier. Excellente journée à tous.